Quand je ne le vois pas, tu es là. Quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore.
Tu es là, et présent parmi nous, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore,
et je t'adore.
Tu es là, transformant nos cœurs, et je t'adore, et je t'adore.
Tu es là, guérissant nos cœurs.
Tu es là, guérissant nos cœurs, et je t'adore, et je t'adore.
Tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras,
tu traces un chemin.
Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore.
Tu agiras encore.
Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore.
Béni Dieu, oh mon âme. Oh mon âme. Rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme. Rends gloire à son saint nom. Béni Dieu. Je te chante encore.
d'un feu plus beau. J'ai
prête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien.
Celui qui m'est en Jésus,
celui qui m'est en Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance, par la foi nous marcherons.
Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Oh, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons.
c'est la paix en Jésus. Nous vous annonçons la paix. 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 La paix en Jésus ressuscité. Ressuscité.
Amen. Merci Seigneur parce que tu es vraiment ce ressuscité en qui on peut avoir toute confiance et tu es fidèle. Amen. Nous allons continuer ce culte avec ce temps de partage. Nous allons accueillir Pascal ce matin. Merci Pascal, ce temps.
Chantal, au moins, un des avantages, peut-être le seul, non, c'est de ne pas avoir de masque quand on est ici. Alors, culte de Pâques. Je vous propose pour ce culte, ben oui, on est, je suis content d'être là, mais bon, je ne vais pas trop m'étendre parce que d'abord le temps est court, puis après, je vais me concentrer sur la parole. On fera des paroles de bienvenue après. Voilà. Parlons de la parole de Dieu, c'est le plus important. Et je vous propose que nous lisions le psaume 46. Alors, c'est à moi de faire ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est clair ? Bon, on va le lire ensemble. Hein, il est court. Hein, au chef de cœur des descendants de Corée, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours, toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que le flot de la mer mugisse, écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés, il fait entendre sa voix. Et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Amen. Voilà, c'est un beau texte. C'est un texte qui est très connu, je ne le savais pas. Moi, il m'a touché il y a quelque temps, pendant cette période. Mais Martin Luther en a même fait un cantique qui est apparemment très connu, qui est le chant de la bataille, qui est très chanteur. Je ne vais pas chanter. Voilà. Pas gâcher 10 ans de vie avec vous par un chant, ça serait dommage. mais vous pourrez l'écouter. Et même, il y a une cantate de Jean-Sébastien Bach. Moi, ce psaume m'a touché et je voulais partager quelques versets, quelques mots. Vous savez, quand on lit la parole, des fois, il y a des mots, il y a des phrases qui vous jaillissent. Et il y aurait beaucoup de choses. Je vais pas faire une... Et puis, dans ma médecine qui fait le choix court, donc on va pas tout faire. Mais il y a quelques mots qui m'ont touché. Bien sûr, le premier, c'est le mot ébranlement. Parce qu'on est dans la situation que nous connaissons et que nous sommes tous ébranlés. J'étais moi-même aussi un peu ébranlé. Voilà, j'ai quitté ma responsabilité de pasteur. En quelques mois, déménager, changer de ville, changer de pays, changer d'habitude. Comment on fait, chérie, pour acheter un timbre? Ah oui, c'est où qu'on achète des timbres déjà? Voilà, tout changer. Voilà, bon, comme si on retire le tapis, puis vous devez tout recommencer à zéro. Moi, ça reste jeune dans la tête, hein, ça permet de rester jeune. Mais voilà, c'est quand même. Mais c'est pas grand-chose par rapport à la situation que nous connaissons autour de nous. Et quand j'entends, quand je vois, ça me fend le cœur. Et puis, vous pourriez parler aussi avec Marie sur la situation des personnes les plus fragiles. C'est terrible pour les gens qui sont dans les fragilités les plus importantes, que ce soit les jeunes qui sont dans l'incertitude professionnelle, ou des scolaires, les plus âgés, les personnes pauvres, dans notre pays ou ailleurs. On n'a pas se rendu compte encore de tous les dégâts de cette crise sanitaire. Et nous la verrons dans les mois et dans les années qui viennent. Mais c'est une période difficile. Nous sommes ébranlés, et tout a été ébranlé, que ce soit pour les gouvernements ou pour chacun d'entre nous. Beaucoup de nos habitudes ont été perdues. On a eu beaucoup de privations de liberté. Mais une chose importante, et on nous l'a redit, il faut s'isoler. Et ça, c'est un mot qui est dur pour nous, chrétiens, d'être isolés. Notre mot, notre message n'est pas « aimez-vous les uns les autres ». Non, on ne peut pas, et même si des ministres pensent, on ne peut pas vivre notre foi tout seul dans notre chambre. Nous sommes relationnels. Nous avons besoin des uns et des autres. Et une société où on ne peut plus se parler, où il y a des gens qui peut-être depuis des semaines n'entendent plus quelqu'un leur dire comment ils s'appellent, ont du mal à savoir qui ils sont. Et ça rend fragile, incertain, insécure. Et à ce niveau-là, ce qui se passe est démoniaque dans notre monde. 60% de mariages en moins cette année en France. 30% de naissance au moins. Et c'est général. Nous sommes ébranlés. Il y a des choses mauvaises qui se passent. Et nous avons besoin d'être protégés. Pour conclure, et ça aussi, ça m'a fait du bien, quand la terre est bouleversée, alors tout ça, je vous l'ai lu, voilà. Je voulais vous lire ce passage qui est dans Hébreux au chapitre 12. Il permettra de faire la transition. Il parle de Dieu. Et il dit, dont la voix alors ébranla la terre. Il parle du passé. Et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Une fois encore indique que le changement des choses ébranlées comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est vrai que ce temps, on pourrait en parler longuement de cette confrontation spirituelle qui se passe en ce moment, mais où je sais que le Seigneur est totalement vainqueur dans les lieux. Et si ça s'ébranle, et s'il y a des batailles spirituelles dans les cieux, il y a des réalités, il faut le dire. Et je voulais vous le dire ce matin, que vous ne soyez pas sans le savoir. La victoire du Christ et de Dieu est totale. Nous sommes ébranlés, vous êtes ébranlés, l'Église est ébranlée, c'est une réalité, ce n'est pas la peine de le nier. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cela? Comment nous allons le vivre? Pour certains, ça se passe facilement, tant mieux. Je me réjouis pour eux. Je crois que pour beaucoup, ça ne se passe pas facilement. Tant dans, peut-être chez vous, dans cette Église, qu'une manière générale. Il n'y a pas les difficultés de faire des projets, de ne plus savoir où nous sommes. Et au fond, la question, c'est que nous sommes vulnérables. Et quand on est vulnérable, on cherche des choses invulnérables. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui est invulnérable? Vous allez me répondre, c'est Dieu, oui. Alors moi, je vais vous dire, il y a quelque chose d'autre qui est invulnérable. C'est les idoles. Une idole est invulnérable. Ah oui. Les idoles sont invulnérables. Elles ne risquent jamais de décevoir, elles sont déjà mortes. Elles sont créées dans nos têtes. Elles existent dans ma tête. Donc elles sont que dans mon imaginaire. Elles sont invulnérables parce qu'elles sont intouchables, mais il n'y a aucun rapport avec le réel. Je crois que Dieu ébranle les idoles dans ce temps, dans nos vies. On vit dans un monde, dans une Europe totalement idolâtre. Mais je ne suis pas là pour dénoncer, ça peut se faire dans d'autres temps et d'autres lieux. Mais réfléchissons à ce que sont les idoles dans ma vie, dans nos vies. Qu'est-ce que tu veux faire dans cette vie, dans ce temps? Pourquoi je vis ce temps-là en ce moment? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce que tu veux dire à travers cela, Jésus? Qu'est-ce que tu veux faire? Dieu veut ébranler les idoles de nos vies, personnelles et collectives. Ces idoles, bien sûr, c'est peut-être plus maintenant des... Et encore, ça, des fois ça existe, des bouts de bois sans vie, tel que c'est si bien décrit dans Isaïe. Mais ces idoles, elles existent dans notre vie, et ça peut être le travail, l'activité sportive, culturelle. Ça peut être mon épouse, ou toutes les femmes en général, mon mari, ou tous les hommes en général. Et c'est très dangereux d'aimer une image et non pas une réalité. Parce que quand la personne ne correspond pas à l'image qu'on s'est faite d'elle, eh ben on la jette et on la brûle. Et ça arrive souvent, y compris dans les églises, y compris par rapport aux responsables. On a une certaine image. Et on n'aime pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'on pense qu'ils devraient être. Et quand la personne n'est plus comme on doit être, comme elle doit être, ça va, et ben on la rejette. On brûle l'idole, comme on dit, on brûle les images. Mais ce n'est pas la réalité de l'amour. Parce que j'allais vous dire quelque chose qui est importante en jour de Pâques de dire, c'est que l'amour nous rend vulnérables. Et justement, dans ce temps, ce que nous devons apprendre, c'est accepter notre vulnérabilité. Et notre société, justement, découvre qu'elle est vulnérable. Mais nous-mêmes, notre Église, nous sommes vulnérables. Moi, je suis vulnérable. Vous êtes vulnérables. Et on l'a trop souvent oublié dans le passé. Nous sommes vulnérables. Aimer rend vulnérable. Aimer me rend vulnérable parce que je mets à nu. Il y a des jeunes mariés, ou des futurs jeunes mariés. Je sais faire la différence. Hein. Quand on est dans une relation, on se met à nu. On est dans une réalité. On est vulnérable. Et justement, c'était quelque chose sur lequel nous devons être conscients et accepter. Dieu est amour. Donc Dieu s'est rendu vulnérable. Il n'est pas une idole, mais il s'est rendu vulnérable. Pour cela, d'ailleurs, que ça a été si difficile pour les pharisiens, qui étaient dans une idolâtrie religieuse, comme nous pouvons l'être encore aujourd'hui, bien des fois. Ils avaient une certaine idée de ce que devait être Dieu. Ils avaient une certaine idée de ce que devait être le Messie. Ils attendaient un certain point. Et ils ont vu un homme, comme dira Isaïe, on se détournait qui n'avait ni apparence, ni beauté, rien de spécial. Je paraphrase moins bien que le texte, mais vous connaissez tous ce texte. Et pourtant, il portait les péchés. Et pourtant, il est mort pour nous. Il était vulnérable. Par son incarnation, par sa passion, par sa mort, il était vulnérable. Il s'est fait vulnérable pour moi. Il s'est fait fragile. Dieu s'est fait fragile, vulnérable. Déjà dans sa naissance, on peut en parler, mais combien cette naissance est un signe de vulnérabilité. Parce qu'un enfant, un bébé, c'est déjà tellement fragile. Et Dieu s'est fait un bébé. Nous, on voit ça avec des... Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on dit? Vous ne pouvez pas et je ne peux pas me rendre compte ce qu'on dit. Je ne peux que l'imaginer. Mais c'est rendu vulnérable pour moi. Jamais les cieux, la terre, n'a été autant ébranlée qu'aujourd'hui, non, qu'il y a 2000 ans, lors de la mort de la crucifixion de Christ. Jamais la terre et les cieux n'ont été autant ébranlés que le jour de sa résurrection. Jamais la terre et les cieux n'ont été autant ébranlés. Oui, nous connaissons des ébranlements en ce moment. Mais ce que nous connaissons n'a rien à voir avec les ébranlements de la croix et de la résurrection. Ils l'ont très bien dit, Timothée, Jérémie, vous l'avez très bien dit, pas besoin de le répéter, c'est parfait. Il a pris il a pris mon péché sur la croix. Vous savez, ce temps d'ébranlement, c'est un temps où j'apprends à briser les idoles, et nous en avons tous. C'est un temps aussi où je meurs à moi-même sur plein de petites choses, c'est des petites morts. On dit d'ailleurs que privation de liberté est une petite mort. D'ailleurs, les gens qui ont été en prison, qui ont été en prison pour eux, vous témoignez ça. Que le fait que quand on vous enlève des libertés, c'est comme si on était un peu mort. Qu'est-ce que je fais de ces petites morts? Est-ce que ce n'est pas par ce temps, par ces moyens, par ce moyen que Dieu aujourd'hui me dit arrête, comme il écrit, arrête et contemple-moi, arrête et regardez ce qui je suis. Il a fallu que Christ meure pour que je puisse avoir la vie. Il a ouvert les portes de la vie en me donnant, en étant vulnérable et en mourant. Pour vivre, il faut accepter de mourir. Oui, avoir une forteresse et un abri qui est fondé sur la mort et sur la résurrection de Christ, non pas sur des idoles, mais sur une réalité que personne ne pouvait imaginer. Qu'aucun être spirituel ne pouvait imaginer, que personne ne pouvait imaginer que Dieu ferait cela, venir sur terre et mourir, accepter de prendre nos péchés, mettre ma confiance dans un tel acte, dans une telle personne. Je ne mets pas ma confiance dans des choses illusoires, mais dans une réalité qui dépasse tout entendement, la mort et la résurrection de Dieu, la résurrection du Christ. Ça défie tous les complots de l'ennemi. Tu veux que je sois ébranlé? Tu veux que je sois vulnérable? Amen. Amen, dit le peuple. Amen. Parce que dans mon ébranlement, dans ma vulnérabilité, je te rencontre, Christ. Je te trouve, Christ. Je te rejoins, Christ. Je suis avec toi. Et comme dit la parole, je passe par la mort pour passer dans ta résurrection. Il faut mourir avec Christ pour ressusciter avec Christ. Et nous sommes appelés à vivre ce temps de mort et ce temps de résurrection. Et ce que je crois profondément, et ce n'est pas pour vous mettre de la pommade ou pour vous dire que demain sera plus beau qu'hier, c'est que vraiment l'histoire n'est pas finie d'être racontée et que nous sommes qu'au début de tout ce qui est en train de se passer. Et que nous verrons aussi des choses incroyables qui vont se passer, y compris dans notre pays. Je voulais... Tu me dis, hein, si je suis trop long, hein. Ça va. Mon refuge, ma forteresse. Il y avait deux versets qui me touchaient aussi. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu. Nous connaissons la fin de l'histoire, mais pour l'instant... On vit au jour le jour avec les difficultés, avec le fait que justement qu'on est obligé de vivre au jour le jour. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on fait cet été? Beaucoup de projets sont arrêtés. Est-ce que je vais pouvoir partir? Est-ce que je pourrais retourner au Maroc? Comment ça va se passer? On ne sait pas. On ne sait plus rien. dans ce temps particulier, d'avoir la promesse qu'il y a le fleuve de Dieu qui, jour après jour, même quand il est silencieux, me touche, me rafraîchit, me renouvelle. Quand j'ai lu ce verset, ça m'a fait du bien. Parce que j'ai besoin que, pas simplement une fois, mais en permanence, que son esprit vienne en moi et me tienne en vie, et me donne la vie éternelle, et me renouvelle dans ma vie. Hein ? Quelqu'un disait, le Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu. C'était le doigt de Dieu qui a touché le cœur de Sylvie, il y a quelques mois. Vraiment le doigt qui a touché et qui a arrêté l'hémorragie. C'est le doigt de Dieu dont j'ai besoin jour après jour. Chaque matin, que Dieu pose le doigt sur chacun d'entre vous et qui vous renouvelle par son fleuve. Le doigt de Dieu. Vous n'avez pas besoin que tous les matins, Dieu vous renouvelle. Et puis, il y a un autre verset. Venez contempler ce que l'Éternel fait. On parle après de la ville de Jérusalem. La Jérusalem céleste. Contemplez Jérusalem. Combien c'est important. Parenthèse, mais je tenais à le dire, parce que je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait des batailles spirituelles. Mais je crois profondément qu'une des choses que le Seigneur nous demande en ces temps-là, c'est de tourner nos regards vers Jérusalem et de prier pour ce pays et pour cette ville. Je crois profondément en cela. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois vraiment que, et le Seigneur me demande vraiment de vous le dire, priez pour la ville de Jérusalem et tournez vos regards vers Dieu. Tourner mon regard vers Dieu, c'est tourner le regard vers ces merveilles de ses œuvres manifestes, si visibles de sa création, de sa nature. C'est de m'émerveiller dans l'homme, dans les hommes. Et combien j'étais heureux de vous rencontrer ce matin. De m'émerveiller de desseins bienveillants qu'il a accomplis de toute éternité dans le Christ, le premier-né. Je ne vais pas continuer, mais on ne peut que s'émerveiller du plan de Dieu, du dessein bienveillant de Dieu accompli à travers son Fils. Je ne peux qu'imaginer. Alors certains vont dire, mais tiens, c'est bizarre, Pascal, il nous a fait une prédication sans parler de film. C'est si, mais je ne vais en parler hein, maintenant. Quand même, garder les traditions. Et je voulais terminer avec cela. Je ne veux pas faire voir un film, mais certains l'ont vu, ce film, La Voix du Pardon. Je vous encourage vraiment à le regarder, c'est un très beau film. Mais ce n'est pas le sujet. Et il y a une chanson que peut-être connaissez, alors moi je ne suis pas « I can only imagine ». Voilà, avec l'accent dans le texte. Je peux seulement imaginer, vous le connaissez sûrement, j'imagine tous, enfin, les jeunes, moi je ne le connaissais pas. Et je voulais terminer parce que justement, ce chant m'a touché et je voulais vous partager les paroles. Parce que dans ce temps où justement tout est bizarre et où justement je sais que ma sécurité n'est pas dans les idoles, parce qu'elle, je peux la voir. Dieu, je ne peux pas le voir. C'est une réalité. J'aimerais bien. Je suis content et ça me fait plaisir de penser qu'un jour je vais le voir et que ça va venir peut-être bientôt, un jour, et ça me fait vraiment plaisir. Pour l'instant, je ne peux que l'imaginer. Mais j'ai besoin de passer mon temps à imaginer, à regarder, à contempler ce que je ne peux pas voir, qui est Dieu. J'ai besoin de passer du temps à contempler Dieu. Alors je peux vous contempler, je peux contempler, mais j'imagine comment ça sera dans le ciel. Et ce chanteur, mais il l'a fait. Alors je vais vous lire avec vous, parce que c'est ces textes, parce que je les trouvais très beaux. Après, si un jour il trouve, il pourra le passer, mais je suis sûr qu'il connaisse par cœur. Je ne peux qu'imaginer à quoi ça ressemblera quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que mes yeux verront quand ton visage sera devant moi. Je ne peux qu'imaginer, entouré par ta gloire, ce que ressentira mon cœur. Est-ce que je danserai pour toi, Jésus, ou immobile, effrayé par toi, me tiendrai-je debout en ta présence, ou vais-je tomber à genoux? Vais-je chanter Alléluia? Serais-je capable de parler? Je ne peux qu'imaginer à jamais. Il continue. Voilà. Qu'est-ce que je ferai quand je serai devant Dieu? Qu'est-ce que nous ferons quand on sera devant Jésus? Hein? Question. Mais c'est bien d'en parler. Enfin, moi, ça me fait du bien d'en parler. Ça fait du bien d'imaginer. Ça fait du bien. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de contempler l'œuvre de Dieu, l'Éternel, et d'être dans son abri, dans sa forteresse, et d'être aujourd'hui et tous les jours. Et le souhait que j'ai pour l'Assemblée, pour notre Assemblée, c'est que vous soyez dans l'abri. Que vous, mais oui, on connaît tout ce qu'on sait sur l'ébranlement, la vulnérabilité, tout ça. C'est une réalité. Aucune raison de l'oublier et de le nier. Mais je mets ma confiance dans quelqu'un qui a été beaucoup plus ébranlé, beaucoup plus vulnérable que moi, et qui a fait des choses beaucoup plus importantes, et qui a vaincu la mort, et qui a gagné, et qui est ressuscité, comme on l'a chanté. Et je mets ma confiance dans une réalité céleste bien plus importante que ce que je vis sur cette terre. Amen. Voilà, soyez bénis tous. On chante, je m'imagine.
Merci beaucoup, Pascal. Oui, nous allons prendre un chant pour la gloire du ressuscité.
Quand vacille ma faible foi, Christ me gardera. Quand le tentateur est là, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il chérit chacun des siens. Christ me gardera. Précieux sous son regard saint, il me gardera. Mon âme sera préservée, sa promesse tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera. Il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. La justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Ensemble, il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera,
il me gardera,
il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera, il me gardera, il
me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera.
Amen. Quelle belle promesse, ce savoir entre les mains du Seigneur qui nous garde chaque jour. Nous allons continuer notre culte avec un temps spécial que nous aurions dû vivre il y a déjà plus de 6 mois lorsque Pascal et Isabelle sont partis pour la Belgique. Il était programmé un culte spécial de remerciement pour leur engagement passé 10 ans à nos côtés. Et ben, je n'en dis pas plus, je voudrais leur laisser la parole d'abord. Je voudrais inviter donc Isabelle et Pascal à venir sur l'estrade, nous partager quelques mots.
C'est bien. Bonjour, c'est émouvant de vous voir. Heureusement que j'ai écrit ce que je voulais dire, mais je suis émue de joie de vous voir. Voilà, mais écoutez, nous avons franchi les portes de cette église pour la première fois à Pâques 2001. Donc il y a exactement 20 ans. À quelques jours, puisque Pâques n'est pas toujours à la même date, mais voilà, il y a exactement 20 ans, on est arrivé ici avec nos 4 enfants à l'époque, parce qu'il y a eu un cadeau nîmois là, qui se cache dans le fond. Il a du mal à se cacher hein, maintenant, mais bon. Et nous arrivions de Bruxelles. Et donc nous étions à l'époque en reconnaissance pour trouver une église qui pourrait nous accueillir avec nos 4 garçons. Et donc nous étions venus ici parce que cette église nous était recommandée chaudement, mais nous ne connaissions, à part une famille, nous ne connaissions absolument personne à Nîmes. Et donc on avait demandé des signes au Seigneur, c'était quand même important, on voulait savoir où on allait passer les prochaines années avec lui, et voilà. Donc on a demandé des signes au Seigneur, et en fait, on est rentré comme ça, on s'est installé là, plus ou moins, où il y a Léosil, là, plus ou moins. Et puis, une fois installé avec tous mes gamins et tout ça, puis je me tourne vers la personne qui était à côté de moi, et là, stupéfaction, j'étais à côté d'une sœur, avec laquelle, c'était donc la seule personne que je connaissais dans l'église en fait, mais je ne savais pas qu'elle était là, une sœur que j'avais rencontrée qui faisait partie de mon groupe de prière de 4 personnes dans un séminaire Torrent de Vie en région parisienne 10 mois auparavant. Donc le signe était assez monumental, voilà. Donc on était tout à fait rassurés. Et puis, à partir de là, ben, on s'est engagé dans l'Église, on a choisi de rester et on a fait la même chose qu'on avait fait à Bruxelles, quand on était arrivé à Bruxelles longtemps avant. On est resté dans une Église et on n'a jamais visité les autres. Donc, c'est un tort, parce que c'est bien aussi ce qui se passe ailleurs, mais nous, on n'a jamais bougé pendant 20 ans. Et j'ai calculé qu'on a passé en fait bien plus que la moitié de notre vie de chrétien avec vous. Voilà, donc c'est riche, c'est important, c'est grand, c'est voilà. Et parmi ces 20 ans, donc on a, comme a dit Fredou, on a passé 10 ans au service de la communauté, au service de Jésus, à votre service. Et surtout, on a eu le privilège donc de vous connaître, plus ou moins, certains très très intimement et très en profondeur, d'autres beaucoup moins. Mais dans ce bout de chemin qu'on a fait ensemble avec Jésus, ça a été vraiment une grande joie de voir les cœurs se transformer. Voilà, ça a été toujours ma plus grande joie, que ce soit dans le visible, ici, à cet étage, ou dans le souterrain, à l'étage du dessous, où on a vu beaucoup de choses aussi pour ceux qui l'ont vécu. Et voilà, donc merci à tous. Et je laisse la parole à Pascal.
Super. Ouais. Ouais, c'est clair que c'est émouvant. Et quand j'étais. Des fois, j'avais du mal à regarder Facebook. Hein, parce que j'avais des nouvelles de vous, puis je ne pouvais pas vous voir. Donc, c'est un peu dur, quoi. C'était dur. Ça a été une grande joie de travailler pour le Seigneur avec vous. C'est un signe, je ne vais pas continuer à prêcher, mais quand le Seigneur nous demande quelque chose, il nous donne une joie surnaturelle. Et si on n'a pas cette joie, c'est que c'est pas. Mais Dieu nous donne de la joie. Et j'ai eu beaucoup de joie à être avec vous et à travailler en tant que responsable de l'Église. C'était un cadeau, un honneur, vraiment. J'ai pensé pour Jean-Louis aujourd'hui, qui m'a demandé il y a 10 ans, à peu près jour pour jour, de si je voulais être ancien. Non, plus de 10 ans, 11 ans. Non, donc il y a 10 ans, voilà, 11 ans, bon, peu importe. Et ouais, vous allez me manquer. Il y a, je sais pas quoi vous dire, moi. C'est trop. La seule chose que je peux vous dire, c'est que. Il y a 30 ans, début de ma vie chrétienne, comme ça, j'avais commencé, puis on était justement à Bruxelles, puis il y avait des Américains, puis on avait un couple d'Américains, puis on avait super bien sympathisé avec eux, puis je dis, ouais, j'ai un ami pour la vie. Puis 3 mois, il repart aux États-Unis. Je dis, zut, alors, j'ai une bonne relation, je crée un bon contact, on s'entend bien, ce couple, et puis ils s'en vont. Et le Seigneur m'a dit, mais tu te trompes, tu le gardes pour l'éternité, cet ami, tu le reverras. Les amitiés, les relations qu'on crée ici, elles sont pour l'éternité. Ça m'a changé mes choses. Je disais, bon, on a du temps, on aura du temps pour se voir encore. Donc on n'est pas perdus les uns des autres. On sera toujours ensemble. Moi, j'avais rien écrit. J'aurais peut-être dû. La chose aussi que je voulais dire, puis je vais laisser. C'est Norbert qui prend la parole après. Ah, bah viens, comme ça, tu vas me sauver. voilà, je voulais dire aussi combien c'était agréable de travailler avec une belle équipe. Hein. Certains de. Je vois Serge, Samuel, je voulais citer, parce qu'il y avait Antoine, il y a Christophe, il y a Norbert, bien évidemment, Fred, les deux Fred. Voilà, ça a été super de travailler avec vous pendant 10 ans, vraiment. Je voulais vous remercier parce que tout ce qui a été fait ici n'a pas pu se faire sans cette équipe qu'on était ensemble. Comme on disait, à un moment, on sentait comme un pack de rugby, mais voilà, vous avez été solide. Voilà, et ça, je voulais vous le dire. Alors, je ne vois pas tout le monde, mais voilà, mais tout le monde se reconnaîtra. Hein. Il y avait une photo, je ne sais pas si elle est encore là, mais une photo. Mais merci à toute l'équipe parce qu'on a été. Voilà, c'était une grande joie pour moi de faire ça en équipe. Bon, reviens. Alors, des nouvelles. Si, il m'a fait me dit qu'il faut que je donne des nouvelles de Bruxelles. Mais il montre quand même deux mots. Donc, alors, bon, donc pourquoi on est à Bruxelles? Alors là, il faut demander au patron un peu, parce que c'était. Moi, initialement, Isabelle devait repartir pour 3 mois pour des problèmes de retraite, pour être très concret, puisqu'elle était fonctionnaire à la Commission. Elle est toujours fonctionnaire à la Commission européenne. Et moi, je devais rester à Nîmes, m'occuper de Clément. Puis patatras, Clément a changé d'école, etc. Et puis, si Clément, on ne sait plus trop où il va à l'école, ce n'est pas peine que je reste ici et que toi, tu sois à Bruxelles. Et on a eu une bonne idée parce qu'un mois plus tard, il y avait confinement. Ça ferait 5 mois qu'on ne serait pas vus. Voilà. Donc, c'était plutôt bien que je monte avec elle. Voilà. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouvais ça plutôt bien. Voilà. Et donc, ça a été une grâce de Dieu parce que rien n'était écrit. Et puis voilà, puis maintenant, au début, on devait penser qu'on resterait quelques mois. Et Marc m'a encouragé dans ce point-là. Et puis il y a un nouveau point qui n'est pas prévu, c'est qu'on a un fils qui a des problèmes, qui avait des problèmes dans la vie scolaire complexe. Hein, et puis qu'à l'école, ici, on n'avait pas tellement de solutions pour aller dans un monde scolaire ici. Hein, on lui avait dit, ça va être compliqué de trouver un établissement. Et là, il a trouvé une école où il se régale et il se plaît. Alors, c'est un miracle. Mais je le témoigne. Et c'est super. Alors, on se dit, si ça lui plaît, on ne va pas le retirer dans 3 mois. Et donc, on peut rester, effectivement, peut-être jusqu'à son bac. Hein, donc, ça fait peut-être 2 ans et demi, concrètement. Des fois, nous, on se dit, on ne va pas travailler 2 ans et demi. Nous, ce n'était pas du tout notre programme. Mais voilà, mais Marc, j'ai parlé avec Marc, on parlait de mon fils, il parlait de sa fille, et il s'est dit, bah, des fois, on s'organise autour de son enfant, quand on a un enfant qui a un handicap, etc., bah, on s'organise autour aussi de cet enfant. Et donc, bah, voilà, si on doit rester 2 ans et demi, parce que c'est le lieu où Clément s'épanouit, bah, on restera 2 ans et demi. Voilà, je voulais vous le dire, parce que nous, on pensait peut-être que c'était pour quelques mois, mais ça veut être... Mais voilà, mais le Seigneur, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne m'a pas donné de feuille de route, et qu'on découvre les choses au fur et à mesure. Voilà, c'est bon au niveau des infos ? Bon, maintenant.
Je voulais juste dire que Jésus est vraiment notre boussole, c'est ce que j'ai réalisé ce matin. Voilà, on le suit. Ce qu'il faut dire, c'est que enfin, le Seigneur nous gâte vraiment dans toutes les conditions matérielles, etc. Et puis, j'ai un de mes fils hier qui m'a fait une belle déclaration hier soir. Et on l'a dit plusieurs fois, on a parlé de la création ce matin, et vraiment j'ai la joie, même si c'est pas facile, de contribuer à la protection de cette création en travaillant là-bas. Et voilà, ça mon fils m'a dit, mais maman, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Alors moi je fais ça, hein. Mais voilà, voilà, j'essaye de contribuer à la préservation de cette création qui souffre en attendant l'avènement du Christ. Voilà.
Restez sur l'estrade. On a quelques mots. Non, c'est pas fini. On a quelques mots pour vous. Vous pouvez mettre le masque. Il y en a Norbert de venir partager. Non, tous.
Cher Pascal, chère Isabelle, il m'appartient de vous dire quelques mots pour vous remercier de nous avoir servi, comme tu l'as dit, Isabelle, de nous avoir servi. D'avoir servi cette communauté durant ces 10 dernières années. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, sur 10 ans, mais je voulais marquer un point marquant, enfin je voulais donc mettre une pastille là au milieu, ce qui a caractérisé ton ministère, Pascal, et j'espère que tu seras d'accord quand même, ton ministère au milieu de nous, c'est ta volonté, c'est votre volonté, et votre désir de mettre la croix de Jésus-Christ au centre de la vue communautaire. Alors, on a des vestiges. On a une croix de 2 mètres, là, qui est par là-bas. On a une croix de un peu plus petite, je crois, en bas, dans le sous-sol. On a une petite croix comme ça aussi. Voilà. Et puis, on a bien sûr la chair qui a changé de look. Voilà. Mais bon, ce n'est pas de ces croix en bois que je voudrais parler. Ce n'est pas de cette croix non plus en acier. C'est ce fondement de la croix que vous avez voulu placer toujours au centre de votre vie, au centre de votre ministère, au centre de votre message. Et effectivement, je crois que c'est le bon moment d'en parler, de cette croix, parce que c'est à la croix que tous les hommes, quand je parle de tous les hommes, c'est tous les hommes et toutes les femmes, bien sûr, que tous les hommes trouvent le pardon, la réconciliation, la restauration, et la place dans la famille de Dieu. Et ça a été votre message, ton message, je dirais, central. Mettre la croix au milieu de notre communauté. Tu nous invitais inlassablement à revenir sur ce fondement. Il y a la chute originelle, il y a aussi les chutes individuelles, mais la croix est le relèvement de Dieu. Il y a de l'ébranlement, mais il y a la personne qui ne s'ébranle jamais et qui est là, qui est notre... Tu nous l'as enseigné plusieurs fois, non seulement en parole, mais aussi en pratique, hein, parce que la croix et la grâce qui découlent du cœur de l'Évangile est au cœur de votre famille, est au cœur de ton ministère et de ton message, au cœur de ta vie, parce que nous avons vu, tu as parlé encore de vulnérabilité. Tu as été tout à fait honnête avec nous, tu as été totalement vrai, vous avez été totalement vrai et honnête, vous nous avez partagé vos combats dans votre quotidien, et j'en suis vraiment témoin. Au cœur de ton ministère et de ton message, au cœur de votre ministère et de votre message, vous nous avez aussi montré pratiquement que chaque personne, chaque homme, chaque femme a vraiment de l'importance pour le Seigneur. C'est à la croix que nous sommes mis à égalité. La vraie fraternité, la vraie égalité se trouve à la croix. Pascal, Isabelle, vous avez passé beaucoup de temps à aider, à écouter, à prier, à soutenir, à encourager les hommes et les femmes de notre assemblée. Et beaucoup pourraient témoigner de cela ce matin. Merci. Pascal aussi, tu nous as montré que la force du service pour Dieu et pour les hommes était non pas le pouvoir, mais l'humilité. Tu n'as pas joué à l'homme providentiel, au super-héros, au sauveur de l'assemblée. Tu nous as appris à nous laver les pieds les uns les autres. Merci. Pascal, personnellement, je voudrais te dire que j'ai aimé travailler avec toi, que j'ai aimé être ton collaborateur. Je suis un témoin de tes prières pour l'Église. Je suis un témoin de ton engagement pour l'Église. Je suis un témoin du travail de ton âme pour l'Église. Je suis témoin de ton effort constant à rechercher le bien de notre assemblée, à essayer d'écouter la voix du Seigneur pour le bien de nous tous. Et j'aurais vraiment aimé continuer comme cela pendant quelques années encore, tu vois. Bon, mais le Seigneur en a voulu autrement. Apparemment, il est votre boussole. Bon, alors on va garder cela comme réconfort pour nous. Voilà. Je crois que le Seigneur Jésus, qui est non seulement votre Seigneur à tous les deux, et aussi le Seigneur de notre assemblée. Et alors, nous voulons lui faire confiance pour la suite. Le message restera le même. Peut-être la façon de le vivre sera différente. Et ce matin, Jérémy, il nous a pris des chants, il nous a changé complètement le code. Hein ? On a les mêmes paroles, mais on ne chante pas de la même manière. Voilà. Merci, Jérémy. Et il me semblait que c'était là comme un signe du Seigneur. Le Seigneur a travaillé d'une certaine manière, il a mis des choses d'une certaine manière. La vérité, elle ne change pas, mais il y a une autre peut-être façon de faire et de vivre l'Évangile. Voilà. Je voudrais qu'on se lève, les amis. Et d'abord, je voudrais qu'on honore, et vous savez comment on fait pour honorer des personnes. Voilà. Au travers de cet honneur, c'est l'honneur à Jésus-Christ que l'on fait. Jérémy priait ce matin encore en disant au Seigneur qu'au travers des gens qui seront sur l'estrade, ils ne voient pas simplement les gens qui sont sur l'estrade, mais le Seigneur qui est derrière. Voilà. Je voudrais prier en votre nom à tous. Je voudrais simplement que vous levez les mains vers Pascal et Isabelle. Voilà. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour Pascal et Isabelle, pour leur famille. Je veux te remercier pour cet homme et cette femme de Dieu, pour cette famille qui t'appartient. Et Seigneur Jésus, en ton nom, je veux, et au nom de l'Assemblée, je veux simplement les bénir. Et Seigneur Jésus, comme tu nous l'as enseigné aussi, tu prends soin de tes serviteurs. Tu prends soin des hommes et des femmes qui veulent te servir et t'honorer dans leur vie. Alors Seigneur, vraiment, je veux te demander de les bénir abondamment, Seigneur, dans leurs désirs, dans leur vie. Merci parce que le chemin continue devant eux, Seigneur. Ils ne s'arrêtent pas. Merci parce que tu es le guide, tu es leur boussole. Et au nom de Jésus-Christ, nous vous bénissons, Pascal, Isabelle, toute la famille. Amen. 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 Je vais demander...
Oui, non, mais j'allais dire, ne partez pas encore. Je vais demander à Frédéric Perrier aussi de venir, s'il vous plaît. Ah, mais attends, Norbert. Norbert, reste avec toi.
Moi, j'avais un cadeau pour Norbert.
Mais vas-y, fais-le.
Voilà. Moi, j'ai un cadeau pour toi. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'était
Je ne te cache pas que moi aussi, c'était difficile de te laisser. Hein. Ça m'a travaillé, tu sais, les mois, les semaines et les années, m'a travaillé de laisser. Mais très honnêtement, je fais confiance à Dieu. Et puis alors, je vais donc te faire un cadeau. C'était quelque chose que m'a offert Jean-Louis il y a 10 ans. Et bon, alors, c'est symbolique. Mais c'était je me souviens quand j'allais chez lui, enfin à Mus, il avait ça au-dessus de ses étagères à Mus. Je me souviens très bien et c'était super. Et puis toi, il y a l'invitation pour l'inauguration du centre il y a 40 ans maintenant. Et puis il me l'a donné. J'étais très honoré parce que je sais que pour moi c'était important. Et j'avais vraiment à cœur de te le remettre. Hein, c'est pas un bâton. Mais j'ai vraiment à cœur de te remettre, voilà, tu pourras le mettre dans ton bureau, mais c'était voilà, c'est voilà, puis tu pourras peut-être le remettre après, je sais pas. Mais voilà, je voulais juste te donner ce cadeau, mais c'était important pour moi de te remettre la maison, quoi. Voilà, symboliquement que je te remette la maison de notre maison, quoi. Voilà.
Pascal, je sais que je pourrais pas le porter tout seul. Heureusement qu'il y a une équipe qui est derrière moi, hein, voilà. Ça, je crois que je suis reconnaissante de tout ce qu'on peut vivre ensemble en communauté. Et merci à toute l'équipe qui est derrière moi pour porter notre assemblée.
Ah oui, c'est un bon village, j'en profite. Voilà.
Oh non, non. Bon, mais d'accord. J'avais prévu d'être sympa, mais je vais m'adapter. Non, mais c'est... Voilà, ça a beaucoup de joie, voilà, qu'on, au nom de l'Assemblée, au nom de chaque membre, on tenait à vous faire un petit cadeau. Puis on s'est dit, comment égayer vos mornes soirées dans ce plat pays qui est le sien? Vous n'allez pas vous ennuyer, on le sait, mais je crois que vous allez vous régaler avec ces très bons livres. Voilà. Et puis au nom de l'Assemblée, on vous bénit. On a tellement d'anecdotes... Je pensais à un truc tout à l'heure, je peux le raconter ? Ça me fait mal, mais c'est pas grave. C'est Pascal, donc il a des enfants, il a un garçon qui s'appelle Antoine, et Antoine, il était à l'école avec ma fille Camille, en 6e, en 5e, en 4e, en 3e. Un jour, on parle avec Pascal de tout et de rien, il me dit, c'est incroyable, je savais pas moi que Camille elle avait été avec Antoine en classe. Il a mis 5 ans pour s'en rendre compte. Voilà. Mais c'est génial. C'est comme ça qu'on l'aime. Et voilà, je trouvais que c'était... Ça dit qui tu es, mais c'est génial. Voilà. Ça va, tu l'as bien pris? Voilà. Ah oui, et en bas à la sortie, sous le préau, il y a une carte, si vous voulez marquer un mot, pour nos amis. Voilà, c'est la famille.
Oui, vous pouvez descendre. Merci beaucoup encore, on peut applaudir. Merci, merci pour votre service. Alors, vous êtes dit, ça y est, il n'y a plus Pascal et Isabelle, comment ça va fonctionner? Ça fonctionne déjà, mais on voudrait prendre 5 minutes pour vous présenter une nouvelle équipe qui se met en place. Et pour ça, je vais appeler Loïc qui va nous présenter cela. Merci de votre patience encore.
Bonjour à tous. Alors voilà, je ne sais pas si vous allez voir, c'est écrit petit, tout au fond là-bas. Donc, parler en quelques minutes de qu'est-ce qui se passe au niveau du conseil de l'Église, des pôles, des services, des activités, des commissions, des équipes, etc. Comment ça se passe? Alors déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais... En 2016, Pascal et Isabelle avaient dit qu'ils resteraient 5 ans. Ils s'étaient réengagés pendant 5 ans avec toute l'équipe de l'époque, hein, de 2016 à 2020. Donc il y a eu 5 années où on avait, donc, au niveau de la gouvernance, donc, comment ça se passait. Il y avait 2 pasteurs, Pascal et Norbert. Il y avait un conseil qui contenait 12 personnes et puis qui s'élargit à 24. Il y avait une équipe de coordination de cette personne. Il y avait 5 pôles. Et il y avait plus de 25 commissions, comités, activités, services, équipes, etc. C'est ce que j'ai mis sur la partie jaune, hein, que j'ai appelé la vie de l'Église, c'est-à-dire c'est chacun de nous, chacun de vous, les équipes. Alors j'ai mis les cultes, les gros de maison, les commissions louanges, enfance et jeunesse. Je ne vais pas tout les lire parce qu'on m'a dit d'être court. Mais tout ce qui se passe dans la vie de l'Église, bah, c'est la vraie vie de l'Église. Ouais. Et puis donc, il y avait par exemple les pôles que j'ai affichés là, qui sont encore affichés, hein, qui regroupaient les différentes activités pour essayer de coordonner, pour essayer de fédérer, de aussi d'être en relation les uns avec les autres, parce que l'équipe Campus Alpha, elle ne faisait pas Alpha dans son coin, mais elle faisait Alpha pour toute l'Église et en relation avec toute l'Église, et c'était vrai pour toutes les activités, les enfants, tout ce qui se passe, l'espace social, etc. Et puis donc, Pascal nous répétait régulièrement, rappelez-vous qu'en 2021, je ne serai plus là. Et nous, on lui disait, mais non, Pascal, tu vas bien rester avec nous, on aimerait bien. Voilà. Et puis donc, en 2019-2020, le conseil s'est mis à réfléchir et à prier pour se dire, et après, comment on fera ? Voilà. Alors, je ne sais pas, je voulais faire un petit sondage. Qui c'est qui aime les changements ici ? Vous pouvez vous lever ? Il n'y en a pas beaucoup, voilà. Moi, je suis resté debout parce que je n'avais pas de chaise. Mais... Et on a un gros problème, c'est que nous n'aimons pas les changements, nous les humains. Et on a un Dieu qui dit « je renouvelle toutes choses ». Et lui, il change toujours les choses. Voilà. Il ne change pas, lui, mais il change tout. Voilà. Et donc, on est obligé d'en tenir compte. Voilà. Et quand il dit qu'il renouvelle tout, il dit même qu'il veut commencer par notre intelligence. Et c'est là où on se sent tous concernés. C'est-à-dire, ah bon, pourquoi il veut renouveler mon intelligence ? Mais bon, c'est une autre histoire. Voilà. Et donc, sachant que le mandat de Pascal et Isabelle prendrait fin en 2020, le Conseil a réfléchi quels sont les changements qui doivent être faits. Et l'idée qui nous est venue au niveau du Conseil, c'est qu'il fallait réfléchir à une nouvelle organisation qui permettrait de réunir au moins trois choses importantes. D'abord, d'avoir plus d'efficacité, parce que l'Église grandit, elle évolue, elle change, et donc ce qui était valable il y a 5 ans, ben, c'est peut-être plus efficace suffisamment pour aujourd'hui. Et puis donc, ça soit lisible aussi, ça soit compréhensible, que ce ne soit pas compliqué. Hein, ça, c'était le premier point. Renouveler aussi et rajeunir les équipes, parce que les équipes avaient tendance à avoir des cheveux blancs. Voilà, et c'est bien d'avoir des cheveux colorés. Et puis aussi d'avoir une organisation qui ne va pas changer tous les 3 mois, mais qui soit pérenne pour plusieurs années. Voilà. Et donc, on a réfléchi à tout ça, on a prié. Et puis, en 2020, ça a été un petit peu l'année charnière. Alors, en quelques dates, au mois de mars, le Conseil, donc les 24 personnes, avaient défini une nouvelle organisation. Pour que ça soit efficace, lisible et qu'on puisse être rajeuni, il faudrait mettre en place une équipe de 5-6 personnes qui serait dédiée à la direction de l'Église. Donc, diriger, c'est-à-dire donner le sens. Donc, où est-ce qu'on va ? C'est ça, la direction. Et puis, une équipe de 8-10 personnes qui serait dévouée à la coordination des services, faire en sorte que les services, les activités d'église soient bien coordonnées les unes avec les autres. Voilà. Et puis, donc, ça, c'était au mois de mars, l'année dernière. Et puis, c'était tout début mars. Et puis, 15 jours après, il y a eu le confinement qui s'est mis en place. Et donc, pendant 3 mois, voilà, on a attendu que ça se passe. Et puis, au mois de juin... Ben, le même conseil, les 24 personnes ont pris le temps de valider cette nouvelle organisation. Et puis après le mois de juin, ben, vient le mois de juillet ou d'août, c'est l'été. Et dans notre climat, ben, la vie de l'Église pendant l'été, elle attend que la chaleur diminue et elle redémarre au mois de septembre. Et donc au mois de septembre, le conseil, les 24, ont mis en place cette nouvelle organisation en choisissant l'équipe de direction. Et puis en laissant donc le mois d'octobre pour composer l'équipe de service qui a été composée, puis après validée ensemble. Et puis, comme vous le savez, il y a eu un deuxième confinement, novembre et décembre, et donc on a attendu que ça se passe. Voilà. Alors on n'a pas tout à fait attendu, parce que grâce à Zoom, merci Zoom, on a pu se réunir, constituer l'équipe de service et commencer à travailler ensemble. Et puis début janvier, lorsque le deuxième confinement s'est arrêté, on a pu réunir les 60 ou 70 responsables des différentes activités de l'Église pour pouvoir leur présenter la nouvelle organisation. Et puis, on voulait le présenter à toute l'église, mais comme vous avez vu, on est dans une sorte de troisième confinement aussi. Voilà. Donc, on le fait aujourd'hui. Voilà. Et donc, la question qui se pose, c'est quel est l'organigramme de l'église ? Tadam ! Alors, j'ai remis l'avis de l'église à droite, et vous allez me dire, mais l'avis de l'église, elle a été un petit peu raccourcie quand même par le Covid et la crise sanitaire. Et on en reparlera. Et donc, quel est le rôle de la gouvernance ? Ben donc, l'équipe de direction, donner la direction, donner le sens, l'équipe de service, coordonner la vie de l'église, et puis bien sûr, il y a le conseil d'administration, parce que nous sommes dans une république et nous respectons les lois aussi. Et le rôle de tout ça, ben, c'est d'organiser la vie ensemble, c'est d'être le soutien des activités et de la vie de l'église. Et ça, c'est le mot important, c'est le mot soutien. C'est-à-dire qu'on n'est pas par-dessus, mais on est par-dessous. On soutient. Et puis, c'est coordonner, encourager, protéger, donner la vision, gérer les questions administratives et financières, etc. Voilà tout le rôle de nos équipes. Alors, j'ai essayé de représenter ça. Donc, les petits ronds de couleur, c'est toutes les différentes activités, les services, les commissions. Et puis, les carrés gris, ce sont les pôles. Donc, on essaie de regrouper les activités qui vont ensemble. Et puis, donc, vous voyez l'équipe de service, l'équipe de direction qui sont dessous pour soutenir. Et puis, les petites flèches bleues, c'est les relations. Et l'équipe de service et l'équipe de direction fait en sorte qu'il y ait des relations entre toutes ces activités, ces services. Alors, les équipes de gouvernance pour servir, donc qui c'est qui se compose ? Alors, je vous propose peut-être les personnes, vous pouvez, quand je cite votre nom, vous levez et puis vous approchez. Voilà. Donc, dans l'équipe de direction, il y a Norbert, il y a Hélène, il y a Frédéric Poujol et Frédéric Perrier, donc vous voulez vous rapprocher, et puis moi-même. Et puis, dans l'équipe de service, donc, nous avons Coralie Allègre, Magali Grenèche, Alexis Vandeventerre, Quentin Poujol, Vincent Prévost et Stéphane Sarkis. Et Franck Garcia, oui, il est noté. Voilà. Alors, voilà, vous les connaissez, vous les voyez. Et puis, dans le conseil d'administration, ben, il y a donc Antoine, Christophe, Frédéric, les deux Frédéric, Norbert, Hélène, Laurent, Loïc, Serge, Samuel. Vous pouvez vous approcher aussi. Voilà les équipes de gouvernance. Un élément important, n'oubliez pas ça, parce que c'est quelque chose qu'on oublie très facilement, c'est que nous avons décidé que l'équipe de direction avait un mandat de 4 années. C'est-à-dire qu'en 2024, ben ça changera. Et que l'équipe de service avait un mandat de 2 années. C'est-à-dire que potentiellement, en 2022, ça changera. Voilà. Il y aura peut-être des gens qui se rajouteront, il y a peut-être des gens qui arrêteront. Voilà. Donc rappelez-vous, hein, on a défini des durées de mandat. Voilà. L'organisation, elle n'est pas pour toute la vie de la personne, mais au bout de 4 ans, on peut remettre la question en place. Alors, les fonctionnements des équipes de direction de service, donc il y a des rencontres régulières au moins une fois par mois, et puis on l'avait annoncé, on a fait venir des intervenants extérieurs, Thierry et Monique Juvet, qui sont des pasteurs suisses. Alors, ils n'ont pas pu venir, on a encore fait par Zoom, mais qui ont animé 2 formations pour les équipes de l'Église, donc pendant 3 jours au mois de janvier, pendant 3 jours au mois de mars, sur le thème du rôle, de la fonction et puis des outils pour les responsables de l'Église. Et c'était très enrichissant. Alors, je voulais finir par ce verset hein, dans Éphésiens 4, 16. C'est par lui, Jésus, que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Le corps tout entier, c'est chacun de nous, et vous voyez, met en œuvre sa croissance. C'est assez étonnant, parce que souvent on dit, bah, c'est Dieu qui fait croître, mais là, dans le verset, il est dit que c'est le corps lui-même, c'est-à-dire chacun de nous, qui met en œuvre sa croissance. C'est nous qui faisons grandir le corps. Alors, pour terminer, l'année 2020, avec la crise sanitaire, ça a mis beaucoup de choses en suspens. Moi, je voulais l'imager par une sorte de taille notre arbre, notre assemblée, a été complètement taillée. Il y a tout un tas d'activités qu'on faisait il y a 2 ans qu'on ne fait plus du tout. Hein ? Il y a beaucoup de services, beaucoup de ministères dans l'Église qui ne s'expriment plus. Et nous avons cette promesse que Dieu taille son Église pour qu'elle porte davantage de fruits. Alors bien sûr, 2021, on attend le nouveau départ. Je crois qu'on est tous sur les starting blocks pour se dire vivement que cette crise sanitaire soit finie pour qu'il y ait un nouveau départ. Et donc moi, je vous invite chacun de nous à être à l'écoute de Dieu et des autres, de chercher bien sûr son royaume, sa justice, et puis prendre le temps aussi de la consolation de tout ce que nous avons vécu de difficile pendant ces années, de revenir à ce qui est fondamental dans notre foi, de renforcer, de soutenir ce qui existe. Et puis, comme cet arbre qui a été taillé, il y a des bourgeons qui sont là, qui vont pousser, et c'est ça qu'il faut favoriser. On ne va pas retrouver les vieilles branches qui n'existent plus, hein, mais on veut faire pousser les bourgeons. Voilà, des nouveaux projets, des nouveaux services, des nouveaux ministères au sein de l'Église et pour notre société. Je vous remercie.
Merci beaucoup Loïc de nous éclaircir. Moi, je vous ai parlé d'une nouvelle équipe qui se mettait en formation et je voudrais les appeler ces jeunes-là, l'équipe de service. Alors, Magali, Coralie, Vincent, Stéphane n'a pas pu être là, Alexis est là, Quentin et Franck Garcia est excusé aussi. Stéphane est qu'à contact, donc il est resté à la maison et Franck est parti aussi. Mettez-vous là, nos jeunes-là, compris pour vous. Oui, oui, Magali, oui, ça dit qu'on était tous jeunes quand on faisait la formation, là. Voilà, parce que vous allez les voir de plus en plus. Ils prennent de plus en plus leur place et je trouve ça merveilleux. Et souvent ils sont des fois là, ceux-là là, des fois vous les... putain il est grand hein, mais je vous promets il fait beaucoup beaucoup de choses à la technique etc. Vous avez des messages qui sont sur les sites etc. Vous voyez pas tout ça mais ils font beaucoup de choses. Et les vieux comme moi qui commencent à avoir des douleurs un peu partout, on est content d'avoir ces jeunes. Moi je dis merci, merci pour ça. Alors est-ce qu'on peut prier pour eux? Je vous invite à vous lever. Vous êtes séparés les hommes et les femmes, mais vous êtes ensemble. Hein. Ah. Merci Seigneur parce que ça nous permet de mettre en place des nouveaux bourgeons. Et merci parce qu'ils ont un cœur à servir. Et nous voulons les mettre à part ce matin. Et parce qu'ils veulent te servir en premier et voir Jésus dans toutes choses. Merci parce que tu les accompagnes et nous voulons vraiment leur donner toute autorité et toute fonction de ce qu'ils font pour l'Église, Seigneur. En ton nom puissant. Amen. Amen. Merci beaucoup. On aura le temps de réexpliquer tout ça, mais comme en plus on nous annonce encore des nouvelles mesures sanitaires, etc., on a dit faisons-le vite un peu aujourd'hui parce qu'on profite, parce qu'on ne sait pas quand Isabelle et Pascal reviendront, etc. On a dit voilà, excusez-nous, on peut se culte un peu plus comme ça, mais c'est vraiment la vie de l'Église qu'on a envie de partager. Et alors ce temps particulier, nous allons prendre ce temps de Sainte-Seine. Je vais laisser la parole à Norbert, ce temps de communion.
Amen. Vous avez donc pris à la rentrée du culte un petit gobelet avec le pain et avec le vin. En l'occurrence, c'est du jus de raisin. Hein. Voilà. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Je vous invite à prendre le pain. Seigneur, je veux te remercier parce que tu t'es donné pour nous. Seigneur, aujourd'hui, c'est une fête spéciale. C'est la fête de ta mort et de ta résurrection. Ce que nous faisons, Seigneur, en signe de cela, c'est de prendre ce pain ensemble. C'est pour chacun d'entre nous que tu es mort et ressuscité. Seigneur, nous vivons de toi, nous vivons par toi, nous vivons pour toi.
Amen.
Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prenez le vin, jus de raisin, et pensez que Jésus l'a dit avec de la joie dans son cœur. Je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je le prendrai de nouveau avec vous. La joie de rassembler sa famille autour de lui. Seigneur, c'est autour de toi que va se clôturer ce culte. Mais Seigneur, c'est par toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. Et cela vient de toi. Ce n'est pas pour les hommes, ce n'est pas par les hommes, ça ne vient pas des hommes. Cela vient de toi. C'est par toi et c'est pour toi. Et Seigneur, ensemble, comme une famille, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Et Seigneur, nous l'avons chanté, tu nous garderas. Et cette parole était puissante, c'est comme une parole prophétique pour nous. Tu nous garderas. Tu nous garderas non pas parce que nous sommes parfaits, tu nous garderas parce que toi, tu es parfait. Tu nous garderas non pas parce que nous sommes fidèles, Seigneur, tu nous garderas parce que toi, tu es fidèle. Et Seigneur Jésus, merci pour cela, parce que nous sommes dans une main qui est très, très, très sûre, très, très confiante. Merci pour ce pain et ce vin que nous prenons en Église, Seigneur. Amen. Amen.
Pour le chant de la Sainte-Seine, on va mettre nos masques et on va venir chanter avec vous « À toi la gloire ». Je voulais qu'on soit unis et on ne peut pas se serrer et tout, mais en tout cas, on va quand même être ensemble et on va chanter « À toi la gloire » d'un même cœur.
Victoire pour l'éternité.
Je peux applaudir. Oui, applaudissons le Seigneur. Alléluia. À lui toute la gloire. Alors, avant de sortir, quelques annonces. Si vous avez bien lu le mail, vous avez vu que si vous avez une photo du culte en commun qui s'est produit il y a déjà 2 ans en arrière, merci de le faire passer. Samedi prochain, il y aura un temps de bricolage pour venir prendre l'air un petit peu pour finir la clôture. Donc, ça sera matinée samedi matin de 8h à midi. Ensuite, regardez bien vos mails. Pensez à vous inscrire pour le prochain culte parce qu'il n'y aura pas de garderie. Ça sera tous ensemble avec les enfants. Nous organiserons un lieu particulier pour ça, mais ça sera tous ensemble ici. Voilà. Et ensuite, je vais vous demander, pendant que la musique joue, de sortir par rangée. Je vais vous appeler rangée après rangée, vous sortirez. Mais pour ça, je voudrais d'abord prier avant de pouvoir partir ensemble. Je n'ai pas enlevé le masque, oui, pardon. Merci Seigneur, parce que nous proclamons que tu es le ressuscité et que tu es avec nous chaque jour et tu nous accompagnes tout au long de cette nouvelle semaine. Merci pour ta présence.